Bienvenue dans l'émission Amphi 23 consacrée aujourd'hui aux origines historiques de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 dont on fête cette année le centenaire. C'est un texte connu de presque chacun d'entre nous, associé au principe de laïcité qui structure notre société. Il apparaît comme l'achèvement d'un long processus d'automisation de l'État par rapport à la religion en France. C'est une loi de tolérance, d'apaisement, qui permet aux différentes religions de jouer pleinement leur rôle social et pas seulement de les cantonner à la sphère privée. Pour nous plonger au cœur des rapports des églises et de l'État, j'accueille aujourd'hui Yves Brûlé, chargé de mission à l'Académie des sciences morales et politiques, pour la commémoration du centenaire de la loi de 1905. Yves Brûlé, bonjour.
Bonjour.
Nous allons ensemble nous intéresser aux sources historiques du principe de laïcité. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Histoire de la laïcité à la française » publié en avril 2005 sous la direction de Jean Tullard et d'André Damien, dont le but est d'expliquer la laïcité par son histoire. Alors pour commencer cette série d'émissions consacrées aux origines de la loi de 1905, nous allons parcourir à grands pas les siècles lointains de notre histoire. L'émission d'aujourd'hui tente un panorama de l'Église et de l'État en France, de la monarchie absolue à la Révolution. Alors Yves Brûlé, peut-on parler de laïcité pour l'Antiquité, pour le Moyen-Âge et même pour les temps modernes?
Il est difficile de parler de laïcité, le mot n'existe pas à l'époque, même s'il a une origine grecque, le mot laos signifie le peuple en grec, mais pas du tout dans un sens religieux. En fait, pour l'Antiquité, on ne peut parler ni de laïcité, ni même de séparation, puisque pouvoir religieux et pouvoir politique sont inextricablement liés, dans ce sens que dans la cité antique, chez les Romains ou chez les Grecs, c'est le magistrat, l'homme politique qui est aussi prêtre. Et c'est, par exemple, dans l'Empire romain, l'empereur romain lui-même qui est le lien entre les hommes et les dieux. C'est par lui que passe le courant, en quelque sorte, hein, les bonnes relations entre les hommes et les dieux. Par conséquent, il n'y a pas de séparation possible, hein, puisque justement, par ses fonctions politiques, il a des fonctions religieuses, à moins que ce ne soit l'inverse d'ailleurs.
Alors, est-ce qu'il y a quand même sous l'Antiquité, même s'il n'y a pas de séparation franche, une distinction entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel?
À vrai dire, c'est avec le christianisme que l'idée apparaît, puisque justement, les chrétiens se développent dans une société qui n'est pas chrétienne elle-même. Hein. Et puis surtout, il y a cette phrase du Christ rapportée dans les évangiles, tu dois rendre à César ce qui était César et à Dieu ce qui était Dieu. Alors, généraliser à la question du pouvoir spirituel et pouvoir temporel, pouvoir religieux ou pouvoir politique, eh bien ça veut dire qu'au fond, César n'est pas Dieu. Ce qui est une véritable révolution à l'égard de l'Empire romain, où au fond, les Césars, c'est-à-dire les empereurs, après leur mort, étaient divinisés, c'est-à-dire considérés comme des dieux. Donc, avec le christianisme, on a une distinction des pouvoirs, même si chez les premiers chrétiens, il y a l'affirmation d'une loyauté du chrétien à l'égard du pouvoir politique.
Donc on a vraiment une distinction et pas une séparation.
Une distinction et non pas une séparation. Et ce principe va se développer sous différentes formes à travers les siècles.
La conversion de Constantin au christianisme change les rapports des chrétiens au pouvoir romain. Désormais, en 312 après Jésus-Christ, le pouvoir impérial est chrétien. Alors quelle est la nature du pouvoir de l'empereur dorénavant?
Effectivement, donc avec Constantin, le chef même de l'Empire romain devient lui-même chrétien. Donc la question change dans ce sens que l'empereur lui-même va vouloir s'intéresser aux questions qui divisent par exemple les chrétiens. Lorsqu'il y aura une division sur la doctrine entre les chrétiens, l'empereur va dire « Attention, moi mon intérêt comme chef d'État, c'est que mes sujets s'entendent entre eux. » Donc il va s'occuper des divisions pour essayer de les résoudre. Et c'est par exemple Constantin qui convoque lui-même des conciles, c'est-à-dire des réunions d'évêques pour parler de questions purement religieuses. Et ainsi, il joue un rôle, il s'empare d'un rôle nouveau que le christianisme ne connaissait pas jusqu'alors, qui est celui d'un souverain qui est à la fois le protecteur de l'Église et qui s'occupe de certaines unités, au fond, parmi les chrétiens.
À l'extrême fin du 5e siècle, le baptême de Clovis est l'occasion à nouveau de clarifier les rapports État-Église et est à l'origine du lien particulier qui unit le royaume des Francs à la papauté. Alors, en quoi consiste cette étape?
Alors, effectivement, la question religieuse joue un rôle essentiel dans la formation de la nation française et de l'État, avec effectivement d'abord la conversion du roi Clovis, qui devient catholique romain, c'est-à-dire qu'il est affilié en quelque sorte à l'Église romaine, et puis surtout, l'étape essentielle, c'est le sacre du roi Pépin le Bref en 751. Alors que se passe-t-il? Bien, pour la première fois, il y a un rite qui est appliqué au roi des Francs. On ne dit pas roi de France à l'époque, on dit le roi des Francs. C'est-à-dire qu'il devient une sorte d'intermédiaire. Il est à la fois laïque, parce qu'il n'est pas ordonné prêtre, mais il est sacré roi. Donc il est un petit peu quand même du côté du clergé, des prêtres. Et donc il a la volonté de l'Église, un rôle particulier, intermédiaire entre finalement les sujets laïques et puis l'Église. Et cela lui donne un prestige particulier.
Tout à fait, c'est même une légitimité exceptionnelle que lui confère le pape, ça c'est quand même tout à fait nouveau. Donc il est devenu le roi chrétien par excellence aux yeux de la papauté. On pourrait croire que là, les rapports entre la papauté et les rois sont au beau fixe.
Effectivement, à cette époque-là, et ensuite avec Charlemagne, il y a une sorte d'alliance qui se lie entre les papes et les rois des Francs. Les papes comptent sur la force politique, en fait, du roi des Francs pour défendre leurs propres intérêts, et puis surtout pour développer un grand programme d'unification de l'Europe dans la foi chrétienne. Et en quelque sorte, le roi des Francs devient un peu le bon élève, hein, le premier
l'artisan.
De la classe, le premier artisan, au fond, de ce grand projet qui est celui de la chrétienté, c'est-à-dire d'unifier l'Europe et d'y répandre le christianisme, mais d'une manière qui soit la même partout.
C'est quand même lié à un contexte historique particulier.
Alors effectivement, à l'époque, des enjeux stratégiques, puisque les Byzantins donc cherchent à reprendre du pouvoir en Italie, et notamment à soumettre le pape. Or, le pape préfère s'entendre avec Charlemagne, qui lui garantit sa liberté, et ainsi un équilibre avec deux têtes, finalement, un empereur et un pape. On revient à cette distinction essentielle, et la question reste toujours un peu la même, au fond, quel est celui qui aura le dernier mot? C'est-à-dire, quel est celui qui, au fond, est le plus important? Est-ce que ça va être le chef religieux, ou est-ce que ça va être le chef politique? Et donc, on voit renaître hein, l'idée d'un empire, comme Constantin. Charlemagne, c'est le nouveau Constantin, mais avec toujours ce même débat qui se poursuit et qui se poursuit tout au long du Moyen-Âge.
Alors, nous venons de voir que la volonté des rois, quand même, les conduit à faire évoluer le rapport entre l'État et la religion en leur faveur, mais y a-t-il eu au Moyen-Âge une redéfinition ou un retour sur cette distinction entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel?
Alors, pouvoir spirituel, effectivement, et pouvoir temporel, il y a une donnée nouvelle à la fin du Moyen-Âge, c'est que l'idée d'un empire, finalement, a plutôt tendance à décliner, et en revanche, apparaissent des États-nations. Et là, la France est très tôt, avec un État très fort, avec un pouvoir royal très fort, qui se constitue surtout au XIIe et au XIIIe siècle, à tel point que le roi de France, en 1303, peut envoyer un ambassadeur à Rome auprès du pape, lequel gifle le pape lui-même, hein, et pour lui montrer qu'au fond, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est le fameux attentat d'Anagni en 1303, et le pape Boniface VIII en meurt d'ailleurs quelques jours plus tard. Donc c'est un peu un symbole, si vous voulez.
Oui.
Mais on arrive dans une certaine modernité, on annonce déjà les temps modernes, puisque le pouvoir pontifical, le pouvoir du pape, va commencer à décliner et va être surtout remplacé, ou en tout cas dominé par les États-nations qui se constituent d'abord en France, puis ailleurs en Europe.
Les conflits entre les rois et les papes ont été parfois profonds et très violents, comme celui que vous venez quand même d'évoquer à l'instant. Les tensions ont pu être très très vives, mais au fond, aucune des deux parties ne souhaite rompre.
En effet, contrairement à ce qui va se passer plus tard avec la réforme, par exemple en Angleterre, eh bien on observe que les rois, même s'ils sont en conflit avec le pape, au fond, ils restent quand même des rois chrétiens. Et donc, ils ne quittent pas l'unité de l'Église, ils restent des rois catholiques, mais ils revendiquent le droit de nommer des évêques ou le droit de percevoir des impôts sur le clergé, par exemple. Ce sont des grandes questions qui se perpétuent tout au long du Moyen-Âge et au temps moderne.
Alors, comment ce modèle de société, cet équilibre, va résister à l'apparition du protestantisme?
Effectivement, c'est une charnière considérable, très importante, puisqu'il y a une division religieuse en Europe. Avant, il y avait une certaine unité. Maintenant, à partir du XVIe siècle, il y a des protestants d'un côté et des catholiques. Et donc, certains États, certains princes, certains souverains vont devenir protestants et d'autres vont devenir catholiques. Donc au niveau européen, il y a rupture de cette unité, c'est la fin de la chrétienté, mais après la question va se poser à l'intérieur de chaque État.
Alors, France, pour le cas de la exemple, France, pour le royaume voilà. de France.
Alors, en France, eh bien, il y a un nombre important de protestants au XVIe siècle. Et la question de savoir quel va être le choix du roi. Le roi lui-même, il est le seul à la tête de le royaume. Il faut bien qu'il dise s'il est catholique ou protestant. Il ne peut pas être les deux à la fois.
Non.
C'est la grande différence avec la République. Elle peut éventuellement se considérer comme neutre, puisqu'il n'y a pas une personne qui incarne cet État comme dans une monarchie. Et donc, il y a là une querelle qui dure tout le long du XVIe siècle, avec des guerres de religion, hein, des persécutions contre les protestants. Et finalement, le roi Henri IV, lui-même, qui était pourtant protestant, mais qui, par la succession royale, devient roi de France, doit quitter le protestantisme et rallier le catholicisme pour pouvoir régner sur la France. Mais tout de même, en contrepartie, il va prendre une mesure capitale, qui est l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance à l'égard des protestants.
Alors effectivement, l'édit de Nantes est un texte très très important. En 1598, donc, les protestants obtiennent la liberté de conscience, mais cet édit a quand même des restrictions. En dépit de ces restrictions, est-ce qu'il constitue quand même une avancée importante.
Effectivement, l'édit de Nantes est un acte de tolérance limité, c'est-à-dire qu'il permet aux protestants de pratiquer leur culte dans certaines circonstances, dans certains endroits, dans certaines régions,
Paris.
Mais symboliquement, point de vue du sens, c'est quand même un acte essentiel parce que désormais, on peut dire qu'on peut être sujet du roi de France sans être catholique.
Voilà, ça c'est le grand pas en avant.
Donc, en quelque sorte, l'appartenance, je dirais politique, au royaume de France, devient plus importante que les divisions religieuses. Mmh. Et donc, l'État est celui qui va essayer de faire cohabiter entre eux, alors avec des restrictions, bien sûr, mais cohabiter entre eux des gens qui ont fait des choix différents d'un point de vue religieux. Et ça, c'est capital.
Yves Brulé, en quoi le règne de Louis XIV traduit-il l'abandon de la politique religieuse de tolérance ?
Effectivement, le roi Louis XIV va abandonner l'édit de Nantes pris par Henri IV. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il poursuit un objectif qui est d'unifier tout à fait le royaume dans la religion catholique. Il est roi catholique et il voudrait que l'ensemble de ses sujets soient eux-mêmes catholiques. Et c'est donc le signe du sommet de l'absolutisme, en fait, dans l'histoire de la monarchie française. Et ce moment indique bien que Louis XIV, comme ses prédécesseurs, veut être en quelque sorte le bon élève de l'Europe catholique.
Alors à la veille de la Révolution, le pouvoir politique s'est également soucié de mieux contrôler le pouvoir religieux. Qu'en est-il ?
En effet, à la veille de la Révolution, il y a un paradoxe. D'un côté, vous avez des États qui sont très forts, qui essaient de contrôler l'Église beaucoup plus fortement encore qu'à l'époque précédente. Mais il y a, d'un autre côté, les Lumières, un nouveau courant philosophique qui ébranle les certitudes religieuses. Et donc, on est dans une situation assez étrange qui va se développer de manière tout à fait inattendue à partir de 1789.
Yves Brulé, merci. Je rappelle qu'on peut trouver en librairie l'ouvrage dont vous êtes l'auteur, Histoire de la laïcité à la française, publié en avril 2005 par l'Académie des sciences morales et politiques. Dans une prochaine émission sur les origines historiques de la loi de séparation des Églises et de l'État, nous aborderons la question des rapports entre l'Église, les Églises et l'État durant la période révolutionnaire. Merci.